tous les homicides commis au Québec, incluant les affaires non élucidées, vues à travers les archives nationales et les documents légaux. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Bonjour et bienvenue à cette deuxième saison de la série Non élucidée, une série de podcasts qui fait partie du podcast principal Mémoire d'archives, donc qui se veut un podcast là, qui consulte les vrais dossiers judiciaires pour parler des vrais true crime. Donc on va à la source et on va à l'information principale, donc la plus fiable qui soit. Et bon, on en a vu 20 cas dans la première saison, et ici on va en avoir je sais pas combien. J'improvise pas mal là-dessus sur la longueur. Et ça dépend aussi, il y a des cas qu'on fait, on fait le tour en 2 minutes, puis il y en a d'autres qu'il faudrait une série complète. Alors, c'est très, très, très aléatoire de ce côté-là, mais dans mon esprit, moi, je ne veux pas en oublier un seul. Et évidemment, vous aurez compris que dans la plupart des cas qu'on a ici, personne ne les connaissait avant. Alors, il y en a qui vont peut-être mentir après, qui vont ressortir, qui vont me copier. Oh, honte à vous! Mais le plagiat, malheureusement, ça existe aussi dans ce domaine-là. Mais c'est pas grave. Moi, je veux les partager avec le public et mes découvertes, je vous les donne. Alors, voilà, c'est ce qu'il y en est pour... j'ai même oublié, il y en a qui m'ont fait penser que je me présentais pas vraiment qui j'étais, donc il y en a qui n'ont pas... ils savaient pas c'était qui faisait les balados, c'est-à-dire la balado mémoire d'archives. Alors, grosso modo, bon, j'aime pas vraiment parler de moi, là, surtout pas en public comme ça, mais je m'appelle Éric Veillette. J'ai un bagage assez assez long dans les archives et dans la criminologie, même si je suis pas diplômé en la matière ni en histoire et tout ça. Donc c'est un melting pot d'histoire et de criminalité aussi en même temps. J'ai étudié pendant des années l'histoire de la conquête de l'Ouest et particulièrement le côté criminel de cette affaire-là, donc les hors-la-loi, les hommes de loi aussi, et tout ce qui avait en conséquence, lorsque finalement j'ai compris que les archives, donc la matière première, était ici au Québec et beaucoup plus accessible, évidemment, vous aurez compris. Donc, ma première visite aux Archives nationales date de 1990. Alors, si vous faites le calcul rapide, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui n'étaient même pas nés. Puis, Internet n'existait pas. Alors, les recherches, on les faisait papier. Et même encore, pour plusieurs sources, c'est encore papier. Qu'on le veuille ou non, ceux qui comptent sur la numérisation, ben, mettez-vous un doigt dans l'œil. Parce que du côté des archives judiciaires, c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres linéaires d'archives papier. Et BANQ n'a même pas les moyens d'engager quelqu'un pour numériser les archives les plus importantes. Alors, voilà, faut fouiller. Et malheureusement, il y a très peu de gens qui le font. Il y en a qui vont le faire quand c'est un dossier qui vont concerner une cause particulière, bon, que ce soit près de leur famille ou quelque chose comme ça, ça arrive, mais pour plusieurs causes, comme moi je le fais, et je le ferai encore, des fois c'est le temps qui me manque, j'ai hâte d'arriver à ma retraite pour avoir plein de temps pour en découvrir d'autres, mais voilà, c'est ça, on s'intéresse à toutes sortes de choses, et bon, mon but principal, c'est de vous le partager. À travers le temps, qu'est-ce que ça fait? Oui, je suis moins connu que certaines personnes, certains animateurs et tout ça, mais mon but, c'est pas de le devenir non plus. Si mes balados le deviennent, ça, j'en serais bien content, mais moi, c'est pas ça qui compte. C'est l'information que je transmets. Si on dit, bon, ben, j'ai appris ça dans une balado d'Éric Veillette, Mémoire d'archives, ben, j'en serais très content, vraiment. Mais mon but, c'est pas d'aller sur la place publique après, puis bon. Mais, veux pas, quand on fait un travail de rat de bibliothèque ou d'archives comme ça, surtout pendant 33 ans, là, vous allez peut-être entendre ma balado en 2024, je sais pas, là, ça fera 34 ans. Mais depuis 90, c'est sûr qu'on développe une expertise dans ça. Il faut se renseigner, savoir comment, la première fois qu'on lit un procès... on comprend pas tout nécessairement à toutes les interventions des avocats, tout ça. Donc, à fil en aiguille, je compterai pas toutes mes aventures, mais on s'informe, on essaie de comprendre, ben, d'abord, c'est quoi un verdict, des choses aussi banales que ça, mais du oui-dire et tout ça. Donc, ça permet de démystifier certaines choses et de comprendre aussi plus facilement. Maintenant, en lisant un procès, ça va beaucoup plus rapidement. Évidemment, il y a une expertise en arrière de ça, je m'en cache pas. Et c'est une expertise qui est faite à partir des documents légaux. Je le dirai jamais assez, je pense. oui, il y a beaucoup d'informations sur Internet. C'est merveilleux. Moi, j'ai connu l'évolution. J'ai connu le avant, pendant et après. Ben après, je sais pas, il n'y a pas rien après Internet, là, faut pas que j'exagère. Mais j'ai connu le avant et le pendant. Et la source primaire est pas sur Internet. Elle ne l'est toujours pas. À part certaines personnes qui vont faire comme moi, à l'occasion, vous allez avoir quelques blogs là, qui vont... Il y a le blog d'une copine Internet que j'ai jamais rencontrée, mais qui était historienne. Je pense que son blog est fermé aujourd'hui. Elle fouillait dans les archives aussi, mais pas nécessairement des causes judiciaires. Mais on voit que la recherche était très bien faite, très bien fondée, tout ça. Donc, faites attention. Il y en a qui vont sortir les enquêtes de coroner. Je pense à un blog en particulier là de John Allor, dont la sœur était morte dans des circonstances étranges dans les années 70, qui quand même sort beaucoup de documentation de son côté, surtout sur les affaires non résolues. Alors, il y a certaines personnes comme ça qui vont... Et sans trop s'avancer aussi sur les théories, là, parce que faut faire attention, là. Lui, c'est correct, là, mais il y en a plusieurs qui des fois ne restent pas objectifs. Et c'est ce qu'il faut faire attention. Si on veut informer le public, il faut découvrir des faits, mais dans l'interprétation des faits, parfois, faut faire attention. Alors, tout ça pour vous dire que ma balado va se différencier à se différence. Elle se démarque déjà, je pense, là, depuis quelques épisodes sur des faits, le fait qu'elle soit basée justement sur des faits. Dans certaines circonstances, on a juste les journaux, malheureusement, à certaines époques et tout ça. Et on va voir qu'on va pouvoir toucher aussi à de l'actualité. Parce que mais les tendances, c'est comme le féminicide par rapport par exemple, à la catégorie de féminicide. Voilà, et on va attaquer avec notre cas de ce soir. Il y a certains modes opératoires, certaines choses qui reviennent, certaines tendances.
Ce n'était pas un poisson d'avril,
c'était le meurtre d'Ignace Terrien. Du moins, c'est ce matin-là qu'on l'a découvert. Il y avait le visage enfoncé dans la neige, ce qu'on dit, près d'une sucrerie, ou si vous voulez, une cabane à sucre, un bon Québécois, qui appartenait à un dénommé Goulet. C'était dans le secteur Saint-Gervais, à Québec, la paroisse Saint-Gervais. Sa mort remontait à quelques heures, c'est ce qu'on a pu constater. Et à son arrivée, le coroner, qui était accompagné du docteur Landry, eux, ils ont trouvé plusieurs blessures à la tête de la victime. À leur arrivée, le coroner et le docteur Landry ont trouvé plusieurs blessures à la tête de la victime, au point où il y avait des morceaux de chair et de crâne qui tenaient en place uniquement par les cheveux. Donc, Dirk. Selon des témoins, il y avait même... M. Terrien avait un œil au beurre noir qui semblait avoir été fait par un coup de poing. Évidemment, c'est pas une grande surprise. Tout le monde en a déjà au moins eu un dans sa vie, ou presque. Selon des témoins, il y aurait un dénommé Samuel Élie dit Breton qui aurait été vu dans le secteur en train de marcher avec une hache à la main. Ah ah, tiens donc. Et évidemment, c'est lui qu'on a accusé. Hein? C'était comme juste avec ce détail-là, on l'a accusé tout de suite. À l'époque, parfois, c'était. On a quand même vu jusqu'à maintenant que les procès c'était pas si mal. Mais bon, des fois, on accusait aussi facilement et on voulait un coupable, évidemment. Il a été accusé de meurtre, mais au terme de son procès, il a été acquitté. Évidemment, on pense que c'est par manque de preuves. Et ce fait cocasse, peut-être un peu, parce que c'est pas tous les procès qu'on voit ça. Il y a un journal de l'époque là, qui a pris la peine de souligner que le procès avait coûté aux contribuables la modique somme de 363 livres. Hein? C'était quelque chose pour l'époque. Alors, c'est pas plus long que ça pour le cas de Ignace Terrien. On a vraiment très peu de détails, même au point de on peut pas le classer vraiment. Est-ce que c'est une chicane de voisin? Est-ce que c'est un meurtre argumentatif? Évidemment, ça ne peut pas être un meurtre par contrat. Ils ne sont pas apparus encore. Mais on va voir que... bon, pour ce type-là, on va les voir plus tard. Donc, ça reste non élucidé parce que, bon, M. Breton, lui, a été acquitté. Et donc, il faut classer ce homicide, cet homicide-là dans les homicides à motif indéterminé, malheureusement. Alors, voilà pour Ignace Terrien. Son meurtre n'a jamais été éclairci.